Bonjour, moi c'est Justine. Si j'avais une IA à mon service, je l'utiliserais pour qu'elle passe les appels téléphoniques à ma place. Je déteste ça.
Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais.
Et toi ?
Salut, moi c'est Johanna. Et si j'avais une IA dans ma vie, moi je m'en servirais clairement pour qu'elle aille au travail à ma place.
Évidemment.
Voilà, parce que comme ça j'aurais plus de temps pour faire mes hobbies.
Lire.
Entre autres. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Lectus. Aujourd'hui, on va parler du tome 2 de La Faucheuse qui s'appelle Thunderhead. Justine, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ?
Alors, nous sommes quelques mois après l'avènement de Dame Anastasia, anciennement connue sous le nom de Citra, au rang de faucheuse, et la disparition de Rowan. Donc Citra, elle vit toujours avec Dame Curie. Elle continue un peu de secouer, de renouveler les règles de la communauté, notamment par sa manière de fauchage, sa méthode de fauchage. Mais elle est vraiment propulsée comme une icône de l'arrière-garde, ce qui lui attire à la fois la reconnaissance de ses pairs, mais aussi de nouveaux ennemis. Ce second tome, on va retrouver nos personnages principaux, Citra et surtout Rowan. On va commencer par lui, enfin le focus en tout cas est mis sur lui, sur les premiers chapitres de ce tome 2, puisque on l'avait quitté et il avait disparu à la fin du tome 1.
Ouais.
Et donc là on le retrouve d'une manière un peu détournée, puisque le premier chapitre il ouvre donc sur un faucheur dont on ne connaissait pas le nom, qui n'est pas non plus en Mid-Amérique, il est plutôt dans une région, je crois que c'est plutôt Nord-Canada, enfin anciennement Canada, je ne sais plus comment, parce qu'ils ont des noms spécifiques pour chacune des régions. En tout cas, il est vers là. Et ce faucheur, on nous apprend que c'est un déviant, il ne respecte pas les règles établies par les faucheurs, et il se trouve que quelqu'un vient taper à sa porte et le tue. Et donc là, on reconnaît Rowan, qui est devenu le fameux maître Lucifer, que tous les faucheurs ont appris à redouter ces derniers mois, puisque il traque et tue
le vengeur capé.
C'est le Zorro.
C'est un peu le Zorro des faucheurs, quoi, qui vient faire la justice quand on ne respecte pas les préceptes des faucheurs.
Finalement, il avait commencé par Godard, il s'est dit « si la communauté veut pas de moi...
» Je continue sur ma lancée,
voilà.
Je vais un peu cleaner tout ça là, parce que ça va pas du tout. Et d'ailleurs, on apprend que Rowan étant en fuite, forcément l'ordre des faucheurs veut absolument le rattraper, parce que c'est pas bien ce qu'il fait.
Donc pendant un an, on a compris qu'il était protégé, grâce à l'immunité de Citra.
Voilà, dans tous les cas, il est protégé. Xénocrate, qui est, on le rappelle, la serpe suprême de Mid-Amérique, qui est l'équivalent du président, il veut faire intervenir le Thunderhead, qui est l'intelligence artificielle qui régit l'humanité. Sauf que.
Elle ne peut pas, séparation de pouvoir, elle ne peut pas intervenir.
Dans l'ordre des faucheurs, donc du coup elle ne peut pas arrêter Rowan. Bah, c'est dommage, ça serait pratique parce que du coup il y a des caméras partout, donc en 2-2 il serait repéré.
Elle le sait, c'est très bien où il est, ce qu'il fait.
Voilà, mais du coup il ne veut pas intervenir dans les affaires des faucheurs. Et après le petit focus de début sur Rowan, on retrouve Citra.
Citra, qui vit toujours avec Dame Curie, comme on l'a dit, et donc qui a inventé un peu sa propre méthode de fauchage qui est différente des autres, puisque c'est la seule à laisser du sursis à ses victimes. Donc elle va leur laisser, c'est un mois.
Ouais, c'est ça.
Un mois de délai pour régler leurs affaires, dire au revoir à leurs proches et aussi choisir la manière dont ils veulent être glanés.
Ouais.
Donc soit par une arme, soit le délai écoulé, au bout d'un mois en fait il y a un délai, parce qu'elle les marque quelque part.
Je crois qu'elle leur inocule un poison,
voilà.
Et du coup qui a une date,
c'est
et
ça.
En fait
expiration.
Si on... Oui voilà c'est ça, parce que moi c'est pareil, je me suis dit les gens ils peuvent se casser, tu vois, enfin... Si elle te laisse
qu'est-ce
un mois,
condamne.
Voilà. Et en fait, non, elle le dit. En fait, il y a certaines personnes qu'elle a voulu glaner qui n'ont pas, qui sont pas revenues vers elle en tout cas. Et du coup, soit ils ont voulu sortir du pays, Soit ils ont juste voulu éviter de se faire glaner, en fait, bah juste ils meurent avec le poison qu'elle a inoculé, quoi.
Voilà, c'est ça.
Dans tous les cas, ils y passent.
Voilà. Donc elle invente, voilà, ça, elle chemine, son petit cheminement à travers, dans cette nouvelle profession de faucheuse. Et il y a toujours autant de tensions, même encore plus, lors des différents conclaves. On le sent entre l'arrière-garde et l'avant-garde. On sent que le vent tourne en faveur, on va dire, des acolytes de Godard, qui là, voilà, son héritage est bien vivant.
Et oui, malheureusement, contrairement à lui, lui, il a laissé des préceptes qui sont quand même embrassés par pas mal de jeunes faucheurs récemment nommés. Donc, là, on sent qu'il y a une bonne tension lors des différents conclaves. Du coup, c'est pas ça. Et parmi tout ça, donc on a toujours Citra et Rohan qui, bah, forcément, sont séparés parce que l'un est en cavale et l'autre, bah, fait simplement son métier. Et finalement, y a un moment, ils vont se retrouver quand même. Ils vont faire un petit rendez-vous secret voilà, ils vont un peu se donner des nouvelles vite fait. Savoir est-ce que toi ça va, ça se passe bien, le glanage des faucheurs, enfin voilà, ce genre de truc. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on comprend que le Thunderhead, il est quand même du côté de Rohan. Parce que finalement, si par défaut, on nous dit que l'intelligence artificielle, elle peut pas faire du mal sciemment. Elle peut pas. Donc en fait, ça veut dire que d'un côté, elle est d'accord avec ce que Rohan fait. Donc elle se sert un peu de lui pour intervenir dans l'ordre des faucheurs. À défaut de elle pouvoir le faire.
Oui. C'est un peu la même chose. Finalement, elle n'intervient pas alors que Godard commet des massacres et contredit les règles des faucheurs. Et donc, bah, forcément, elle ne peut pas intervenir non plus pour juger Rohan à la place.
C'est sûr. Mais ouais, là, c'est pareil. Le Thunderhead, il est vraiment border. C'est pareil, il module un peu des fois les limites qu'il a d'imposer entre l'ordre des faucheurs et ce que lui, il est capable de faire. Enfin, ce qu'elle est capable de faire, l'intelligence. Donc, voilà, elle ne s'immisce pas. Pas trop là-dedans, elle les laisse chacun faire leur petit bout de chemin, mais on sait que ça, c'est pareil dans le livre, c'est plutôt bien amené que au final c'est vraiment c'est omniscient, donc il y a des caméras partout, elle voit quasiment tout, il y a pas grand chose qui échappe à son contrôle. Et d'ailleurs, dans ce nouveau livre, dans le tome 2, on nous introduit un personnage qu'on n'a pas trop développé dans le premier, qui est Tiger.
Oui, l'ami d'enfance de Rohan. Alors on le rencontre, la première scène c'est un peu particulier parce que son petit hobby, c'est de se jeter dans le vide et de passer de centre de résurrection en centre de résurrection. Faut toujours qu'il aille plus haut, qu'il fasse
des bons plus splash. Fort.
Donc un peu comme ça qu'il avait été introduit Alors c'était essentiellement pour attirer l'attention de sa famille, c'est d'ailleurs le point qui les rapproche tous les deux.
C'est pour ça qu'ils sont amis, parce qu'ils se décrivent comme dans la feuille de salade, dans le burger, le truc qui est pas hyper intéressant, qui est coincé entre une tripotée de frères et sœurs. Mais voilà, clairement, Tiger, il est... En fait, lui, son objectif de vie, c'est d'être noceur professionnel, donc c'est-à-dire fêtard pro.
D'être invité dans des soirées UP et de profiter.
Voilà, c'est ça l'objectif. Et en fait, Tiger va voir Rohan pour justement lui annoncer qu'il y a un faucheur au Texas qui a requis ses services, en sachant que, petit aparté, mais le Texas, et ça on nous le dit bien du coup dans le livre, c'est une région en fait qui est un état vraiment indépendant. Donc c'est-à-dire que le Thunderhead de lui-même n'intervient quasi pas en fait dans cet état. En fait, il mène une expérience d'expérience.
C'est ça.
C'est une expérience sociale.
Oui.
Pour voir en fait comment se débrouillent les gens sans son intervention.
C'est ça. C'est un état autonome où l'intervention de l'IA est modérée.
Voilà, c'est ça. Donc lui, il annonce à Rohan qui va aller au Texas. Et il en profite aussi pour lui dire que le père de Rohan a été glané. Rohan n'est pas...
Il apprend la nouvelle, ça fait déjà...
ça fait plusieurs mois, je crois, que le père a été glané. Et puis, c'est surtout qu'il comprend qu'en fait, c'est des représailles qui... à défaut de lui, le glané, puisqu'il est immunisé, Bah, du coup, ils ont glané son père.
Oui, c'est ça. Il a un peu servi d'appât pour essayer de le capturer. D'ailleurs, en parallèle, il y a une enquête hein, qui est menée. Enfin, il y a tout un... Il y a un enquêteur qui est dépêché par la SERP suprême pour justement retrouver Rohan. Il va voir... il interroge Chitra, il va interroger plusieurs personnes. Ils vont essayer de mener des actions pour les récupérer. Forcément.
Bah oui, du coup, vu que l'intelligence artificielle ne veut pas les aider à retrouver Rohan, alors que vraiment, ça lui prendrait 10 secondes. Du coup, ils sont obligés de se débrouiller par des méthodes conventionnelles. Mais finalement, Rohan... du fait de son apprentissage, il a quand même pris pas mal de compétences, donc il est plutôt dur à tracer, donc ils ont beaucoup de mal à lui mettre la main dessus. Et donc parmi tout ça, là on a un nouveau personnage qui est introduit du coup dans ce deuxième livre, qui est
Cresson,
tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce perso?
Alors lui, c'est, il a été biberonné par l'IA, on peut le dire comme ça, hein, puisqu'il a été recueilli par... c'est l'IA, hein, le Thunderhead qui l'a élevé. Oui, qui l'a élevé, qui a pourvu à son éducation. C'est un peu... c'est l'ami, c'est la famille. Grayson, il est tout le temps en contact avec le Thunderhead, au point où il veut en faire aussi sa vocation professionnelle. Il veut devenir agent Nimbus, donc un agent au service du gouvernement dirigé par l'IA. Et donc, on le suit, il a passé les examens, et il va être incorporé en tant qu'agent Nimbus. Et finalement, il va avoir une mission un peu particulière.
Oui, parce qu'en fait, dans le livre, donc on comprend que lui, il est prêt à embrasser sa vocation d'agent Nimbus. Et finalement, il se fait convoquer justement au siège des Nimbus pour un espèce de rappel aux règles. Donc il comprend pas trop parce que lui, forcément, il est à fond dans les règles. Le Thunderhead, c'est vraiment... c'est son parent. Donc ça lui viendrait pas à l'idée de déroger aux règles. Et en fait, l'agent avec qui il discute lui lâche comme info qu'il va y avoir un attentat contre deux faucheuses. Donc on comprend directement hein, que c'est Dame Curie et Dame Anastasia. Et en gros, on laisse le choix à Grayson d'intervenir ou non.
C'est ça.
C'est un peu, passage initiatique. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire? De quel côté tu es? Enfin, voilà.
C'est pas une information qu'il aurait dû recevoir. Donc ça, il le comprend très vite.
Oui.
Et est-ce que vraiment on lui donne le choix? Il sent bien que c'est une volonté de la part de l'IA d'aller prévenir ces faucheuses. Il sait très bien que sa mission, ça devient ça.
Oui, voilà, il comprend en fait que le Thunderhead est passé par des chemins un peu détournés pour lui confier cette mission, puisque encore une fois, lui, il peut pas intervenir dans les affaires des faucheurs. Sauf que visiblement, il a tout intérêt à ce qu'elles ne périssent pas. Mais d'ailleurs, là, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que là, en gros, on lui impose, entre guillemets, de faire cette action. Et le fait d'avoir cette intelligence artificielle qui est tout le temps avec toi, avec qui tu peux poser des questions et qui répond en fait à la moindre de tes questions ou au moindre de tes besoins, je me dis, les gens, ils doivent plus vraiment réfléchir par eux-mêmes. En fait, tu remets entièrement tes choix et tes décisions à une intelligence artificielle qui enlève le poids du choix pour toi, quoi.
Oui.
Donc au final, là, Grayson, il est poussé dans ce choix.
Mais est-ce qu'il l'aurait choisi pour lui? C'est ça que tu veux dire?
Ouais, en fait, au final, on sait... Enfin, si, parce que du coup, il a été élevé par l'intelligence, donc lui, ça lui paraît évident, mais je parle plus d'un point de vue général sur toute l'humanité. En fait, les gens, ils sont tout le temps en train de se référer à cette intelligence, quoi. Donc, tu choisis plus vraiment par toi-même.
Oui.
Parce qu'au final, l'intelligence, elle est programmée pour faire le meilleur choix par rapport à plein
de paramètres. Pour toi, te manipuler, en quelque sorte.
Ouais, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je trouve que dans ce livre, c'est... C'est bien amené, mais c'est vrai que moi je sais pas si j'aurais pu vivre dans une société comme ça où vraiment tout est régenté par une intelligence artificielle et ça te retire un peu la possibilité de choisir par toi-même.
Le libre arbitre.
Voilà, sans être influencé par une intelligence, quoi.
Ok.
Donc effectivement, Grayson choisit de prendre la mission.
Oui.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il va faire?
Ah, c'est ça qui est assez drôle. La scène était assez... drôle, enfin vraiment comique.
Oui.
Dans le sens comique où il va réussir à trouver par des moyens détournés l'adresse de Dame Curie. Et alors que Madame Curie, en gros, fait office de monitrice auto-école pour Citra, elles sont vraiment une voiture et elles quittent la demeure où elles habitent, qu'elles habitent. Et donc, il arrive et là, en fait, il repère un espèce de fil donc attaché à une bombe. Et donc, il fait des grands gestes pour les avertir qu'il ne faut pas qu'elles approchent plus. Donc, il se met en travers de leur chemin. Et en fait, Citra, au lieu d'appuyer sur le frein, va appuyer sur le champignon et écraser Grayson.
Oui, c'est vrai qu'il se fait écraser, le pauvre.
Mais dans un dernier souffle, il arrive à quand même leur dire, enfin leur faire comprendre que...
Elles étaient en danger, en fait.
C'est ça.
Enfin, du coup, elles vont comprendre qu'il y avait un attentat qui était fomenté contre elles.
Tout à fait. Et donc, à l'enquête pour retrouver Rohan s'ajoute l'enquête pour déterminer qui voulait éliminer des faucheuses.
Ouais, Dame Curie et Dame Anastasia. Oui. Et puis, bon, après, on comprend que, voilà, c'est vrai qu'on aurait tout intérêt à ce qu'elles disparaissent parce qu'elles sont, du coup, de l'arrière-garde. Donc, voilà, c'est vrai que, bon, on se dit...
Pour laisser le champ libre au nouveau.
Histoire d'enlever un peu. Parce que, surtout que, voilà, Anastasia, elle a vraiment pris de la prestance et de l'importance au sein de l'Ordre des Faucheurs. Donc, en fait, elle a un peu une... c'est un peu comme Dame Curie, elle est vraiment connue pour le coup, on la reconnaît aussi
tout de suite,
elle a une robe lavande, donc c'est pas le truc qui passe inaperçu. Donc Grayson, effectivement, il a déjoué l'attentat à la voiture piégée. Il est envoyé dans un centre de résurrection et Dame Anastasia va le voir et donc il avoue en fait à demi-mot que c'est le Thunderhead qui lui a confié la mission de les protéger. Donc ça se recoupe un peu aussi avec, dans le premier livre, je sais pas si tu te souviens, tu sais, quand elle est à l'entre-deux, qu'elle meurt et que le Thunderhead lui parle.
Oui.
Du coup, bon, elle accorde quand même de l'importance à ça, elle se dit, ok, donc s'il veut me protéger, c'est que j'ai des trucs à faire qui doivent être importants pour lui, enfin pour l'intelligence artificielle. Et par contre, le pauvre Grayson, lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il récolte ?
Pas vraiment grand-chose, même, justement, on va le mettre à pied, parce que il a dérogé aux règles de ne pas se mêler des affaires des faucheurs. Il est allé prévenir Dame Anastasia et Dame Curie, donc il va se faire rétrograder, on va lui dire « voici la porte ».
Ouais, donc du coup, il perd son objectif de vie qui était d'être agent Nimbus. Et pire que ça, en fait, le Thunderhead le classifie malpropre.
Oui, donc ça permet aussi d'introduire... Enfin, c'est un statut... On savait qu'ils existaient dans le tome 1, mais on n'avait pas vraiment développé sur cette faction de malpropre qui existe dans la société et qui manquait un peu le côté lisse du premier tome. Ça manquait un peu de complexité... Donc là, avec les malpropres, on apprend qu'il y a des gens, justement, qui refusent l'ingérence du Thunderhead dans leur vie et qui vont avoir tendance à aller contre le bien commun, à vouloir faire un peu des bêtises.
Ouais, c'est un peu des skinheads, quoi. Enfin, c'est un peu gros comme truc, mais voilà, c'est vrai que c'est... Enfin, il est vraiment classifié malpropre un peu du jour au lendemain. Et du coup, quand t'es malpropre, tu dois faire des rendez-vous avec un, avec un agent. C'est un peu comme quand t'es à Pôle emploi, Pôle emploi France Travail. Et que tu dois aller faire ton petit rendez-vous mensuel en disant je cherche bien du travail, en fait. Donc il se fait convoquer du coup au bureau au bureau qui gère les malpropres. Et il rencontre le même agent qu'il avait eu la première fois, qui lui avait conseillé d'intervenir pour justement déjouer l'attentat. Et en fait, là, ce même agent, il lui suggère finalement d'infiltrer la communauté des malpropres.
C'est ça. Donc, nouvelle mission, finalement. Il était un peu au fond du seau. Il ne comprenait pas pourquoi l'IA l'avait mené comme ça à sa perte, lui avait arraché sa raison d'être. Mais finalement, un mal pour un bien, entre guillemets. Il va devoir infiltrer la communauté des malpropres, justement continuer à mener l'enquête de son côté, savoir qui en veut à Dame Curie et Dame Anastasia.
Ouais, et notamment parce que, encore une fois, ça c'est pareil, c'est dit dans le livre, le Thunderhead ne peut pas surveiller les malpropres, parce que du coup c'est eux qui ont choisi de se retirer de la société, donc en fait ils respectent et ils regardent pas les malpropres. Et c'est dit aussi que la communauté des malpropres fait partie de ces angles morts.
C'est ça.
Donc on apprend quand même que malgré l'omniscience de l'IA, bah, finalement il y a des endroits ou des personnes que bah, parfois elle ne voit pas.
Ouais.
Donc il y a des petits loupés, elle ne voit pas toujours tout, quoi. D'où l'intérêt de Grayson qui s'infiltre vraiment dedans.
Très intéressant aussi parce qu'il développe ben, du coup les angles morts de l'IA. On découvre des lieux de sociabilité. Alors il y a un petit peu des bars à thème où tu peux faire un peu n'importe quoi.
Oui.
Oui, oui, oui. Où il n'y a pas de limite.
Ouais.
Un peu pour, je sais pas, une échappatoire, un exutoire de tout le mal-être que tu as en toi ou de la violence. Ou, ça c'était assez, assez sympa à lire, en mode un peu pour utiliser des grands mots, catharsis. Mais oui, c'était, c'était assez intéressant et. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Grayson parce que je trouvais qu'il développait tellement de facettes en une. Bon, on le verra encore même après au fil de l'histoire et du tome suivant.
Ah, moi, il m'a fait trop de peine parce que vraiment, c'est un peu l'esclave de la servitude, quoi. C'est, tu sens que l'intelligence, elle se sert de lui parce qu'elle n'a pas de corps et du coup, elle le pousse à faire des choses que elle-même, vu qu'elle a des règles très strictes, c'est une intelligence artificielle, donc elle n'est pas soumise au comment dire, elle peut pas déroger à ses règles en fait. C'est pas comme un humain ou comme un homme politique par exemple. Mais du coup, ouais, le pauvre, il est obligé de faire des trucs. En plus, il comprend pas pourquoi.
Au départ, oui.
Au départ. Mais c'est vrai que ouais, moi je me suis dit, ah, le pauvre, quoi, il est obligé de se taper le sale boulot et tout. Mais il y va, il est là en mode non mais c'est bon, je suis sûre que
au bout du tunnel.
Ouais, au bout, c'est sûr qu'il y a un truc bien et tout, donc vraiment bon. Alors il est déterminé, hein, ça on peut pas lui enlever, mais ouais, moi j'étais en mode non, le pauvre, il est encore parti faire vraiment du sale boulot, quoi.
Bah c'est un peu l'idée quand même, hein.
Ouais,
c'est vraiment un peu l'idée parce qu'il va côtoyer des gens qui sont pas sympathiques,
oui,
voire dangereux,
pas recommandables. Bah oui, il a un petit crush avec comment elle s'appelle, Purity, qui est une malpropre et elle est vraiment versée. On sent que c'est la punk. Elle veut pas qu'il y ait de l'ordre. Elle veut buter des faucheurs à fond et tout. Enfin, elle est vraiment contre la société. Donc c'est pareil, lui, du coup. Comme tu dis, c'est intéressant parce qu'il se retrouve un peu pris entre deux feux, entre lui, il respecte les règles, le Thunderhead, ça l'a toujours... il l'a toujours aidé. Et puis là, il se retrouve avec quelqu'un qui est à l'opposé de comment il est lui, mais il aime quand même.
Il aime quand même et ça va l'aider aussi un peu à se décoincer. Tu sais, tu sens un peu ce truc-là, justement, tu disais, de découvrir le libre-arbitre, qui il est vraiment et tout. Alors, il n'embrasse pas son statut de malpropre à 100%, mais... Tu sens quand même que ça l'aide pas mal à prendre du recul
par rapport
à la situation.
Oui, parce que, alors je sais pas si on l'a précisé, mais du coup, quand on est estampillé malpropre, on n'a plus accès, on peut plus communiquer avec le Thunderhead.
Pas directement, oui, c'est vrai.
Même pas du tout, en fait. Donc c'est aussi pour ça que Grayson, au début, la pilule est un peu dure à avaler, parce que lui, il a toujours vécu avec cette présence rassurante qui l'a élevée, et du jour au lendemain, il est privé de communication avec elle. Donc c'est vrai que voilà, comme tu dis, au moins il a l'occasion de découvrir des vraies personnes, de s'immerger un peu dans le vrai monde. Donc pour le coup, il a une bonne évolution, même si ça s'est fait un peu dans la douleur, parce que bah, voilà, on lui supprime un peu son doudou, quoi. Donc ça a été un peu dur.
Mais finalement, son enquête, il va le mène à découvrir finalement le réseau de malpropres qui s'attaque aux faucheurs.
Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une organisation, en même temps, l'ordre, les faucheurs, voilà.
Ça représente quand même, d'où leur statut assez élevé dans la société. On avait parlé des privilèges dans l'épisode 1.
Voilà, c'est ça. Et ça, il réprime totalement le fait qu'il y ait des humains supérieurs à d'autres. Donc, il va effectivement découvrir qu'il y a toute une organisation...
Et donc un nouvel attentat planifié, encore une fois, contre Dame Anastasia, à l'occasion d'un de ses glanages programmés, entre guillemets, dans une pièce de théâtre.
Oui, parce qu'en fait, donc Dame Anastasia et Dame Curie ayant été la cible d'attentats, donc il a été choisi qu'en fait elle ne glane plus, parce que du coup elle se mettait en danger. Et toutes les personnes que Citra devait glaner, vu qu'elle leur laisse un mois de sursis, finalement ça a été glané pour elle. Des gens l'ont fait pour elle, sauf une personne qui lui est restée, qui est il est
acteur dramaturge. Ouais,
ouais, c'est ça.
Oui, je crois.
Il fait du théâtre. Et lui, il a demandé à être glané pendant qu'il fait une sur représentation.
Scène. Brutus.
Voilà. Vraiment le boulard, quoi. Donc, ça va se passer dans un théâtre. Et Dame Anastasia et Dame Curie, bon, elles le savent qu'il va y avoir un attentat, mais elles ne savent pas trop comment. Et donc, au final, c'est Grayson qui va intervenir. Parce que le réseau de malpropre qu'il a infiltré, bah, finalement, ils veulent... utiliser le système incendie, je crois, du théâtre, pour balancer de l'acide.
Oui, c'est ça.
Bah, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Et forcément, qui dit acide dit bah, que tu peux pas revenir à la vie, c'est parce ça, qu'il reste
détruire,
plus rien.
Détruire les corps, oui.
Voilà.
Le plan était machiavélique.
Ouais, c'est... oui.
Donc voilà pour l'entrée en matière de ce nouveau personnage, et bah, ça clôture aussi la première partie de ce tome-là, ce tome 2, un peu... ça fait plusieurs fois qu'on parlait des attentats, etc. Voilà, on met un point final à ce première partie. Et pour revenir à la communauté des faucheurs, qu'est-ce qui se passe?
On peut peut-être faire un petit focus sur Maître Faraday.
Tout à fait.
Maître Faraday qui... bon, alors lui, il est toujours mort aux yeux de la communauté.
Oui, il n'est pas revenu à la fin du tome 1 pour laver le nom de Citra en disant « Coucou, je suis vivant ». Il ne revient pas du tout.
Non, lui, il est là « Ouf,
non, je suis bien, je suis bon ».
Ouais, non, ça ne me dit pas. Mais en fait, c'est qu'il a un projet plus grand qui est de trouver la procédure de sécurité qui a été mise en place par les pères fondateurs de l'Ordre des Faucheurs, qui est ni plus ni moins qu'une procédure dans le cas où, bah, justement, l'Ordre des Faucheurs viendrait à péricliter ou que les enseignements qui avaient été... Enfin, les commandements qui avaient été mis en place ne soient pas respectés.
Il sent quelque chose.
Ah oui, Maître Faraday, il est bien éclairé. mais en tout cas, voilà, lui, il est parti pour faire des recherches, en fait, savoir où se trouve cette procédure de sécurité. Donc il va faire des recherches, il va notamment à la bibliothèque et il va rencontrer une bibliothécaire
à Alexandrie,
à Alexandrie, et donc c'est Munira qui est pareil un nouveau personnage de ce deuxième tome. Munira qui
fait des recherches, elle est passionnée par les premiers journaux des faucheurs.
Oui.
Donc elle les connaît par cœur, donc c'est pour ça que Maître Faraday s'adresse à elle, parce que a priori il devine que s'il faut trouver des informations, potentiellement c'est elle qui peut l'aiguiller. Donc ils vont former comme ça une petite équipe qu'on va suivre de chapitre en chapitre dans ce tome-là, à travers leur découverte.
Ouais, parce que ils vont quand même faire la première découverte qui est que apparemment la procédure de sécurité se trouverait sur la terre de Nod. Donc ça, ils trouvent ça dans une comptine.
Oui.
Parce que forcément, il faut que ça soit un peu caché, il faut pas que ce soit évident à trouver. Et donc là, ils vont passer une bonne partie du livre à chercher où se trouve la terre de Nod.
Oui, donc, ce à quoi ça peut correspondre. Tout à fait.
Ça va jalonner un petit peu tout le livre. Ça, c'est vraiment en toile de fond, plutôt.
Oui, c'est vrai.
Ça prendra de l'importance qu'à la fin, je dirais.
Mais oui, au tome suivant.
Mais voilà. Et après, si on revient un petit peu sur Grayson, qui est quand même l'un des personnages phares de ce deuxième livre, il y a... Je sais pas si tu te souviens... mais à un moment il doit retourner voir son agent qui lui a filé ses missions et il s'aperçoit en fait que l'agent il s'est fait glaner et du coup lui il se retrouve avec ses missions en fait personne n'est au courant que il a dû faire ça et il se retrouve bloqué dans son identité de malpropre donc Syracuse
c'est ça.
Voilà.
C'est le nouveau nom, le nom de malpropre qui s'était
choisi et du coup Grayson n'existe plus.
Il y a juste Syracuse.
Ouais, c'est ça, Syracuse.
Qui existe.
Et ça, j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit, mais le pauvre, encore quoi, vraiment le sort Sacha. Il est encore bloqué. Et après tout ça, donc, on revient sur Rohan, qui est un petit peu absent du coup de ce livre. C'est pas sur lui qu'on met la priorité, mais bon, après lui, il fait ses affaires, il est en train de faucher des faucheurs. Il fait sa vie. Et Rohan, il va trouver Xénocrate pour savoir qui a glané son père.
Oui. Lui, sa mission, c'est de trouver l'info et le faire le punir, hein, tout simplement.
Et malheureusement, il décide d'aller punir donc c'est Maître Brahms.
Oui.
Et d'ailleurs, en plus, Juan est bien dégoûté parce qu'il avait voulu le faucher il y a quelque temps et il l'avait épargné en se disant non, mais c'est bon, il peut faire acte de pénitence. Et en fait, Maître Brahms, finalement, c'est lui qui a été fauché son père.
Oui.
Donc, Juan, un peu aveuglé par son désir de vengeance, il va trouver Maître Brahms chez lui
Oui.
pour le faucher. Sauf que.
C'est un piège.
Eh oui!
Il se fait capturer.
Il se fait capturer et du coup, où est-ce qu'il va se réveiller?
Ben, il se réveille au Texas, dans la région autonome du Texas, et en fait, il apprend que c'est Damrand qui l'a capturé. Donc, il se réveille avec l'une des anciennes acolytes de Godard qu'il était persuadé d'avoir tué, du coup.
Bah ouais,
Donc, première surprise.
Oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, dans l'épisode d'avant, à la fin, en fait, Rohan tue Maître Godard, le décapite, et il fait brûler les corps de Damrand et Maître Chomsky. Donc là, du coup, la surprise est d'autant plus grande que finalement, elle est toujours là. Donc c'est-à-dire qu'elle a été résurrectée.
Oui, mais qu'on lui avait pas dit. Enfin, qu'il avait pas appris en tout cas.
Bah, il n'était pas au courant, mais parce que aussi, en fait, elle a été au Texas justement parce que il n'y a pas beaucoup d'informations qui transitent. Donc, c'est un état où tu es un peu tranquille si
C'est
tu
ça.
veux faire ta petite retraite. Et il retrouve un deuxième personnage au Texas qui est.
Oui, qui devait aller au Texas? Il retrouve son ami d'enfance, Tiger. Et en fait, bon, on se doute bien qu'ils ne sont pas là tous les deux par hasard et qu'il y a un plan beaucoup plus grand que Damrand a imaginé. Donc ils vont bizarrement, au début on comprend pas, encore une fois, on n'est pas omniscient dans la lecture du bouquin. Donc on sait qu'ils s'affrontent, ils s'entraînent. Tiger, il est persuadé qu'il est devenu l'apprenti de Damrand et que
Ouais.
du coup ils s'entraînent.
Pour devenir faucheur.
Voilà, c'est ça. Donc il y a souvent des combats entre eux.
Ouais, ils s'entraînent au
Au
Bokator
Bokator.
tous les jours. Tous les jours, tous les jours.
Jusqu'au jour où Tiger ne revient plus.
Et non.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben, alors là, c'est vraiment. Moi, j'ai. Alors là, moi, je m'y attendais pas. Et sur ça, on n'est pas d'accord parce
C'est
que toi,
vrai.
t'es pas pour. Enfin,
C'est bien, on va débattre.
voilà. En fait, Tiger a ni plus ni moins servi de support pour la tête de Godard, puisqu'en fait, le plan de Damrand, donc Damrand a réussi à sortir du brasier qu'avait mis Rohan dans le livre précédent. Et en fait, elle a sauvé la tête de Maître Godard. Et du coup, Maître Godard, par contre, n'avait plus de corps. Donc, en fait, elle a entraîné Tiger pendant tout ce temps pour qu'il ait un corps qui soit, on va dire, adapté à la condition de faucheur, etc. Et elle a mis sa tête dessus, en
C'est ça,
fait,
oui.
pour, du coup, faire revenir Maître Godard
Ouais,
parmi les
un corps de
vivants.
substitution,
Tout à fait.
un
Alors,
autre.
c'est un peu ça, ouais. Alors, moi, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai trouvé ça trop bien.
Oui, c'est là que nos avis
Diverge un
tout
peu
à
parce
fait.
que Justine n'est pas d'accord avec moi.
Non, alors c'est pas que. Alors j'étais surprise, ça c'est clairement, tu t'attends pas du tout à ce qu'ils reviennent, mais j'ai surtout été un peu déçue. Parce que je me suis dit, mince, le retour du grand méchant quand même, c'est un peu téléphoné.
Ouais.
Et je me suis dit, ben, mince, des histoires comme ça où on n'arrive pas à faire mourir des méchants et on n'arrive pas à en créer de nouveaux. Enfin, voilà, je me suis dit, oh, c'est bête de l'avoir. Il avait servi à quelque chose sur le tome 1, il clôture le tome 1, pour moi c'était fini en fait. Je voyais pas la plus-value
Ah mais non,
de le
mais
refaire vivre.
justement, t'es jamais à l'abri du grand méchant loup qui revienne. Moi,
C'est
j'ai trouvé
ça.
ça trop bien. Bon, par contre, du coup, encore une fois, Tiger, lui, il est passé. Bon, on s'est servi de lui, quoi.
Ouais, clairement.
Parce qu'en plus, il était hyper insouciant, donc lui, il s'attendait pas du tout à, en fait, à servir de porc qui va à l'abattoir, hein, clairement. Mais moi, j'ai trouvé le ressort de ramener, du coup, le grand méchant, surtout de cette façon, qui est vraiment une façon.
C'est gore, ouais.
Ouais, parce que t'aurais pu
Très
dire,
Frankenstein, un peu horreur.
oui, en mode, vas-y, on
Ouais.
va lui coudre la tête sur le reste du corps. Je sais pas, je pensais que, tu vois, ils auraient fait repousser son corps.
Ok, oui, simplement,
Voilà, mais non,
oui.
là, c'est pire, tu vois, ils prennent. En plus, c'est vraiment fait pour faire du mal aussi à Rohan. Parce que Rohan, finalement, donc on l'a dit, mais sa famille ne compte pas vraiment pour lui. Enfin, voilà, il a pas beaucoup d'accroche avec eux. Par contre, avec Tiger, beaucoup plus. Et du coup, ça a vraiment été fait pour lui porter le coup de grâce, quoi.
C'est ça.
Donc c'est hyper dur pour lui parce que du coup il voit la tête de Godard, son pire ennemi, sur le corps de son meilleur ami, qui maintenant n'est plus. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé, mais voilà, après je comprends le point de vue de du coup on ramène encore un mort à la vie, enfin bref, pas terrible quoi. Pendant ce temps-là, Grayson, du coup, qui a fait empêcher l'assassinat de Dame Curie et Anastasia, lui il devient recherché parce que du coup on pense qu'il a participé, c'est malgré ça. L'aide qu'il a apportée, parce qu'en fait il a réussi à éteindre le système d'arrosage d'incendie du théâtre, donc finalement il les a sauvés.
Mais comme son identité Grayson n'existe plus, il reste juste Sicarius.
Ouais,
et
voilà.
Donc, du coup, oui, effectivement, il est recherché.
Tout à fait. Donc, du coup, il va demander de l'aide à Dame Anastasia, et Dame Anastasia va l'envoyer dans une communauté de thonistes pour qu'il soit à l'abri, puisque du coup, encore une fois, c'est des gens vers lesquels on ne va pas trop, un peu comme les faucheurs.
La même communauté auprès de laquelle elle avait trouvé refuge, elle.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans le tome 1.
Ouais, tout à fait. Donc, du coup, elle lui dit, bah voilà, tu vas dans cette communauté, tu dis que tu viens de ma part, et tu seras bien reçue. Et sur ces entrefaits, on se retrouve en fait au conclave des faucheurs avec Xénocrate qui fait une annonce pour le moins retentissante.
il décide tout simplement de ne pas poursuivre de ne pas reconduire son mandat. Il dit clairement, moi j'ai fait mon temps, bisous.
Je laisse ma place.
Voilà.
Mais pourquoi il laisse sa place ?
Il laisse sa place parce que il a une opportunité de carrière. Il va pouvoir siéger au Conseil mondial des faucheurs.
Ouais,
à Endura, sur une île artificielle perdue au milieu de l'Atlantique.
Tout à fait, voilà. Il rejoint, je crois qu'ils sont 5.
Oui.
Et du coup, c'est pour les grands continents de ce monde. Et ouais, du coup, il a une occasion en or et il se dit, c'est bon, parce qu'en plus, lui, il est très. Il a les dents longues. Donc voilà, ça l'intéresse forcément. Donc le poste se retrouve vacant. Et forcément, le poste se retrouve en vacant. Il y a des faucheurs qui proposent Dame Curie.
Oui.
Et là, qui revient en poussant les portes.
C'est vrai. Maître Godard, accompagné de Dame Brande.
Voilà.
Sous les applauses d'une grande partie de la salle.
Globalement, un peu de la moitié. Hein, parce que, déjà, il a bien ménagé son effet. Donc, effectivement, on se dit, c'est quand même. C'est pas mal. Et du coup, il va y avoir un vote, puisque c'est vraiment c'est Dame Curie contre Maître Godard pour devenir la nouvelle serpe suprême de Mid-Amérique. Et sauf que...
Citra
oui.
trouve un ressort bien avisé pour reporter le dépouillement des votes. En fait, elle estime que comme... 97% du corps de Godard ne lui appartient pas. Comment on peut dire qu'il est aux commandes ? Effectivement, il n'a pas passé les épreuves. Il n'a pas sa bague, a priori, parce que c'est Rowan qui l'a.
Oui.
Donc il n'y a rien qui vraiment pourrait le rattacher au statut de faucheur. Donc c'est un débat qui va être porté devant le Conseil mondial des faucheurs.
Tout à fait. Du coup, il y a une enquête qui est ouverte pour faire une espèce de jurisprudence. Et du coup, ils vont partir. Dame Curie et Dame Anastasia vont partir à Endura. Maître Godard, Dame Rande et Rohan vont faire pareil. Sachant que pour l'instant, personne ne sait que Rohan est entre les mains de Maître Godard et Dame Rande. Hein. C'est un peu la surprise.
Bon, on comprend que l'idée, ça va être de lui faire porter le chapeau, mais. Pour tout ce qui est arrivé.
Il veut
livrer Maître Lucifer au Conseil mondial.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plus dans le sens, regardez, le mec, il a buté tous vos potes, c'est de sa faute, etc. Et c'est un peu aussi pour faire preuve de sa bonne foi à lui, en disant, mais regardez, je suis pour la justice, je vous ai ramené Maître Lucifer. Pendant ce temps-là, donc déjà, il y a cette grosse partie qui se passe du coup à l'ordre des faucheurs. Et on retrouve, on a une petite coupure avec Maître Faraday et Munira qui découvrent où est l'île de Nod. Et en fait, on découvre que l'île de Nod, c'est un angle mort du Thunderhead. Donc ça, je trouvais ça trop bien.
Oui, c'est très bien amené, la manière de croiser les infos et de découper. En fait, c'est juste qu'au niveau des cartes, c'est Munira qui découvre qui découvrait ça en superposant les cartes
Qu'il n'y a aucun avion qui passe au-dessus de cette île. C'est un atoll.
Un atoll, dans la Polynésie. Ça fait vraiment un triangle des Bermudes.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça a été choisi quand l'Ordre des Faucheurs a été créé, justement pour que le Thunderhead n'ait pas accès, ne puisse pas essayer en tout cas de voir ce qui se passe là-bas et d'être vraiment tranquille, quoi.
Mais bon, qui dit découverte de cet angle mort dit que le Thunderhead est au courant.
Tout à fait, parce qu'en fait, dans la bibliothèque où ils font la découverte, il y a malheureusement une très vieille caméra. Qui appartient au Thunderhead et qui a vu
Kirek, une petite lumière rouge, voilà.
Qui a vu du coup qu'ils ont fait cette découverte qui est quand même majeure. Donc l'intelligence artificielle se sent poignardée dans le dos, mais ça reste une intelligence artificielle. Du coup, on comprend qu'elle décide de pardonner, de dire ok, c'est normal qu'ils aient fait ça, je comprends leur motivation, machin machin.
Mais jusque là, on sait pas trop si elle va les aider, si ça va être une course un peu contre la montre entre
qui arrive le premier.
Voilà, c'est ça.
Ouais, là à ce stade, on sait pas trop effectivement comment elle va réagir. Donc voilà, du coup, Munira et Maître Faraday vont décider d'aller sur place. Et on revient du côté de Damran, de Godard, etc.
Dernière partie de ce tome 2 qui va se passer sur l'île d'Andura.
D'Andura, tout à fait, qui est en fait la capitale des faucheurs, clairement.
Tout à fait.
C'est une île flottante.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ça fait très ville futuriste, j'ai trouvé, avec... Enfin, t'as l'impression qu'il y a des cascades qui tombent, c'est luxuriant, la végétation, etc.
D'ailleurs, j'avais lu un livre où c'était exactement la même description de l'île. C'est un truc de fou, mais j'ai l'impression vraiment de lire la même chose.
Ah oui, bah, y a des livres comme ça.
C'est dingue, ça s'appelle Océan.
Ok.
Et du coup, c'était vraiment la même chose.
Après, bon. Il y a pas mal de concepts dans la fantasy qui sont repris d'un livre à l'autre.
Atlantide, donc c'est quand même.
Oui, c'est vrai que ça fait un peu Atlantide aussi. Bon, même si là, c'est au-dessus du coup de l'eau, puisqu'on on comprend que l'île, elle fonctionne avec des flotteurs.
Ouais.
Des flotteurs géants. Il y a une partie aussi qui est pas mal intéressante, c'est celle avec Dame Rand. On comprend qu'en fait, le fait d'avoir passé autant de temps avec Tiger, finalement, elle a développé des sentiments pour lui.
Mais oui.
Et le problème, c'est que c'est quand même elle qui a fini par décapiter Tiger et qui a mis la place de... Enfin, la tête de Godard à sa place.
C'est vrai qu'elle est doublement... parce qu'on sent qu'elle voue quand même un petit culte à Godard.
À Godard, ouais.
D'une manière presque amoureuse. Et en même temps, elle a développé des sentiments pour Tiger. Et là, elle se retrouve avec les deux dans le même corps.
Voilà. Donc
le
c'est super
combo
bizarre.
Parfait, tu vois.
Et sachant ça, Dame Rand, elle tente de faire des avances à Godard. Sauf que Godard la repousse comme un sac. En lui disant que ça l'intéresse pas, etc. Et Dame Rand, elle est rancunière. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire vu qu'elle a été maltraitée par Godard? Par vengeance, en fait, elle décide d'aider Rohan à s'échapper de la cellule où il était, en fait, à Andura, qui est ni plus ni moins que la chambre, enfin la suite, dans laquelle il était avec Godard et Dame Rand. Donc, Rohan s'échappe. Et pendant ce temps-là, du coup, on
assiste au débat donc entre Citra, Dame Curie et Godard, Dame Rand, auprès du Conseil.
Ouais,
tout ça se
conseil.
Passe dans un délai très court, finalement.
Ouais, là, c'est hyper court.
Ouais. Tout est très bien détaillé, mais quasiment heure par heure. Il y a quand même pas mal de chapitres réservés à cette partie-là.
Ouais.
Mais ça s'enchaîne. C'est l'affaire d'une journée, quoi.
Oui, au final, c'est une ou deux journées à peine, quoi. Et quelle est la décision du Conseil?
La décision du conseil, donc après les débats, les arguments, il y a Citra, Dame Anastasia qui délivre son meilleur speech, qui arrive finalement à convaincre le conseil mondial d'aller dans le sens de Dame Curie. Même si les votes, parce qu'on ne sait pas encore la teneur. Du vote. On sait pas qui aurait gagné.
Oui, mais l'ordre mondial va dans le sens de Dame Curie.
Donc, il décide ça. Et à ce moment-là, Maître Godard aligne toutes les parties de son plan. Et donc décide de bouleverser l'ordre des choses.
Et oui.
Parce que c'était bizarre jusque-là, depuis qu'ils étaient arrivés à Honduras, il y avait comme des petits indices qui étaient des pannes.
Il y avait pas mal de pannes électroniques. En fait, il y avait des petites coupures du coup dans la lecture pour dire que bah, il y avait des gens qui sont chargés de s'occuper de la maintenance de l'île d'Andura, qui est en fait une île flottante. Donc forcément, il doit y avoir des trucs pour, bah, pour qu'elle flotte. Et au-dessus du niveau de la mer, et il y avait bah, les alarmes, elles marchent pas, ou enfin voilà. Et au final, pendant qu'ils sont en train de débattre du coup dans l'arène de l'ordre mondial, Andura se met à couler.
Simplement.
Voilà, donc ça se met à couler, et le problème c'est que comme il y a des... Enfin, les alarmes ont toujours eu des défauts, donc en fait, même si, on va dire, le staff de la maintenance lance les alarmes, bah finalement, ça alerte personne.
Non.
Parce que c'est un truc qui est apparemment récurrent, c'est comme si, voilà, dans... Enfin, comme nous au travail, tu vois, quand on a des alarmes qui se mettent, tu te dis pas qu'il y a le feu, tu te dis bon ok, ils font un test quoi.
C'est ça.
Donc forcément, les gens paniquent pas trop.
Non, et puis comme l'IA ne peut pas intervenir dans les affaires des faucheurs, elle ne peut pas non plus réparer les problèmes ou les avertir.
Voilà, elle peut pas intervenir, donc en fait là vraiment...
C'est vraiment l'erreur humaine, l'enchaînement d'erreurs humaines les unes après les autres.
C'est ça. Et donc bah, finalement, Andura finit par vraiment couler bien sévère. Et enfin, l'eau est en train de rentrer du coup dans la salle de l'ordre du conseil.
Oui.
Ils peuvent pas sortir, ils sont bloqués. Oui. Et surtout, il y a des requins qui rentrent.
Ah oui, c'était la partie un peu chelou.
Ah, moi j'ai pas aimé non plus.
Oui. Alors c'est que du coup, bah, les hommes, on en a parlé des nanites en eux, qui permettent de guérir, de régénérer les cellules. A priori, les animaux en ont aussi. Ce qui permet à l'IA de pouvoir plus ou moins les contrôler les migrations. Enfin bref, il y a tout un développement. Et donc là, Godard avait décidé de hacker les nanites des requins et de la faune en général.
J'avais pas du tout compris ça, moi.
Ah ouais, c'est vrai. Pour non, leur donner faim.
Mais oui. Ah, mais oui.
Ouais.
Ah, mais oui, c'est vrai qu'ils sont déréglés là dans l'aquarium. C'est oui, c'est vrai, j'avais oublié cette partie.
Et donc, du coup, bah, il offre les membres du conseil aux requins, littéralement.
Ouais, tout à fait. Et Maître Godard, lui, il s'échappe vraiment comme dans un 007, c'est-à-dire que Dameron vient le chercher en hélicoptère.
La main sur l'échelle.
Oui, le grand méchant qui s'en va, quoi. Donc, ouais, lui, du coup, il en rééchappe.
Ouais.
Et bah, par contre, il reste Rohan, Citra et Dame Curie qui sont...
qui se retrouvent, parce que jusque-là, bah, effectivement, Rohan s'est échappé. Ils arrivent à se retrouver.
Voilà, parce que Dame Curie et Anastasia ont réussi à sortir de la salle du conseil avant qu'elle soit inondée.
Ouais.
Donc, elles se sont pas fait piéger. Elles retrouvent Rohan. Bon, du coup, Dame Curie, elle a un peu... mais attendez...
C'est lui.
Oui, voilà, c'est lui, c'est Maître Lucifer, mais bon, bref. Alors que vraiment, on comprend que Citra, elle n'a jamais douté de la bonne foi de...
Voilà,
elle prend sa défense.
Clairement.
Et finalement, Dame Curie...
Comment on s'en échappe? Parce que... Alors, effectivement, Godard a très bien fait les choses. Il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de canot de sauvetage.
Ah non,
il est en train de couler.
Ouais. Y a aucun moyen de s'en sortir.
Voilà, la première, on va dire, zone gérée à proximité... qui pourrait être éventuellement secouru par l'IA, je crois que c'est à 30 km des côtes d'Andura.
Oui, c'est trop loin, en fait, ils peuvent pas y aller.
Trop loin. En fait, ils sont bloqués.
Voilà.
Ils sont bloqués, et voire, on l'apprend, condamnés.
Et Dame Curie, elle choisit en fait de se sacrifier pour que Citra et Rohan vivent, notamment pour qu'ils puissent expliquer ce qui s'est passé sur l'île, s'ils en réchappent. Et en fait, elle décide de les enfermer dans le cœur de l'île d'Andura, qui est un grand coffre-fort blindé, enfin voilà, qui contient les robes des premiers faucheurs de l'ordre.
Les maîtres fondateurs.
Et surtout la réserve de pierre qui sert pour assertir les bagues des faucheurs. Donc en fait, elle les enferme dedans et elle dit bah, de toute façon, voilà, le cœur va couler, mais vous serez préservés dedans parce que vous allez, comme tu tombes dans les profondeurs, bah, forcément, t'es dans le froid, donc voilà, t'es protégé.
Et c'est une mort accidentelle, ce n'est pas un autoglanage, donc on pourra
les ressusciter. Voilà, mais on ne sait pas dans combien de temps.
C'est ça.
On ne sait pas combien d'années ça va prendre avant que quelqu'un vienne faire des recherches, ou quelqu'un ait l'idée de remonter ce coffre, que l'information soit passée, etc. Et,
on se quitte là-dessus.
Et oui, on se quitte là-dessus.
On se quitte là-dessus, le coffre tombe dans les profondeurs.
Tout à fait, et quand même la dernière chose qui est importante pour introduire du coup le livre qui viendra après, c'est que le Thunderhead fait sonner toutes les alarmes de toute la planète.
Mmh.
Et c'est donc la grande résonance oui. qu'attendaient les tonistes qui en fait s'effectue. Et à partir de ce moment-là,
silence.
Silence. Plus personne n'entend le Thunderhead. Voilà, et ça se termine sur ça.
Ça s'en est passé les choses.
Ah là là,
la fin du tome 2.
Ah là là, le cliffhanger. Moi j'ai adoré.
Le tome 2, ouais.
Ouais, il était vraiment. Alors, j'ai moins aimé que le premier parce que voilà, le premier tu découvres un univers, etc. Mais par contre, les ressorts.
Oui.
Vraiment le fait de ramener Godard à la vie, moi j'ai adoré. Et puis, même toute la mécanique de... Voilà, on découvre un peu plus comment fonctionne l'humanité, la communauté des malpropres aussi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc non, vraiment, il m'a bien plu, ce deuxième tome.
Oui. Et toi ? Plus mitigé, effectivement, je l'ai trouvé moins cohérent que le premier. Parce que bon, ça suivait un schéma finalement assez classique. Le premier, t'as le voilà, récit initiatique, t'as les épreuves, les étapes... C'était assez linéaire, on va dire. Le deuxième, effectivement, un peu plus diversifié. Que ce soit au niveau des points de vue, au niveau de l'intrigue, il y a pas mal de choses qui suivent. J'ai bien aimé, par contre, un peu comme toi, qu'on rentre un peu plus dans les détails de la société. Mmh. C'était très centré faucheur, le premier.
Oui.
Là, on découvre plus de choses, il y a plus de complexité. C'est, voilà, ça pose plus de questions, je trouve. Et puis oui, c'était vraiment l'occasion dans ce tome 2. On avait, alors dans le tome 1 encore, on avait les coupures avec les extraits des journaux. Et là, dans le tome 2, on rentre vraiment dans la complexité de la pensée IA. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, très profond.
Oui, c'est vrai qu'on l'a pas forcément mentionné, mais en fait, dans le livre, il y a vraiment des bouts entiers de qu'est-ce que pense l'IA. Comment est-ce qu'elle voit les choses, comment est-ce qu'elle intervient ou pas, qu'est-ce qu'elle choisit de faire, qui n'était pas forcément présent du coup dans le premier. Et ça, c'est vrai que c'était bien, parce que du coup, à quel moment est-ce qu'on considère que l'intelligence artificielle a une conscience pour faire des choix avisés? C'est un peu tout le sujet hein, qu'il y a du coup dans le livre 2. Et ça va être un peu plus exploré dans le 3.
C'est un peu le débat entre machine et homme.
Oui.
Ils sont vraiment le tiraillement entre les deux. Ça, c'était très chouette. Et puis l'ouverture à d'autres espaces aussi, finalement on sort un peu de la mid-Amérique, on découvre un peu plus société et le monde
qui compose la nouvelle humanité.
Donc ça c'était pas bien, c'était très bien pardon. Et parce que j'avais moins aimé forcément la déception, un peu déçue du retour de Godard.
Le réchauffer.
Voilà, un peu réchauffé.
On l'a décongelé, on l'a remis, on espère que vous appréciez.
Ouais. Et toi, est-ce qu'à la fin de ce tome 2, t'attendais quelque chose du tome 3?
Je savais pas trop. J'étais très très pressée de lire le tome 3 que je me suis empressée de lire à la suite forcément. Ben, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Franchement, je savais pas du tout vers quoi ça allait nous emmener. Donc j'ai été très contente de voir ce qui se passait dans le 3. Mais du coup, on en parlera la prochaine fois. Mais j'avais pas d'attente particulière. Okay. Je savais pas trop où l'auteur allait nous emmener, comment il allait choisir de répondre au cliffhanger qui nous laisse à la fin. Bon, après, voilà, je me doutais que Juan et Citra allaient être ressuscités, mais je savais pas dans quelle temporalité. Est-ce que ça serait dans 2 ans ou dans 100 ans, tu vois. Mais après, pas d'attente.
Okay.
Je me suis laissée surprendre.
Oui. Oui, un peu pareil, je m'étais dit par rapport au questionnement de l'IA, je pensais que en fait, il allait avoir une incarnation physique de l'IA, qu'elle allait vraiment s'incarner soit dans une machine réelle. Je m'étais dit peut-être qu'il prendrait ce chemin-là, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, on verra si effectivement ça a été le cas ou pas dans le tome 3.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Lectus. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui sera sur le dernier tome de La Faucheuse, donc suite et fin. On espère que vous serez avec nous et on vous souhaite une bonne fin de journée.
Une bonne lecture, à bientôt!